France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Si les abstentionnistes sont bien aujourd'hui les premiers vainqueurs des élections organisées hier en France, une victoire que déplorent tous les partis politiques, les grands gagnants de ce premier tour des régionales sont pour l'essentiel les présidents sortants. C'est l'une des leçons que veut retenir ce matin Yves Bardon, l'analyste de l'Institut Ipsos Soprasteria, partenaire de Radio France. Yves Bardon répond aux questions de Stéphane Robert.
La prime au sortant a bien fonctionné. On voyait que dans les sondages qui précédaient les votes, les gens étaient contents du bilan de leur président de région. Donc ils n'avaient pas de raison de le punir parce qu'il aurait raté, échoué, trahi la parole donnée. Ils ont vu que les régions s'impliquaient, on pense au Grand Est en particulier, à l'égard de la Covid. Ils ont vu très concrètement, avec un bénéfice, l'utilité de la région et de leur président. Donc ils n'avaient pas de raison d'être négatif à son égard.
Ce qui est surprenant aussi, c'est le faible score des candidats et des listes portées par le Rassemblement national.
C'était quasiment une autoroute pour le Rassemblement national quand on considère ce qui inquiétait les gens, la délinquance, l'immigration, l'insécurité. Et visiblement, le Rassemblement national n'a pas pu mettre des candidats suffisamment convaincants ou alors surfer sur cette dynamique qui lui était absolument favorable, puisque c'est les électeurs de Marine Le Pen en 2017 qui fournissent le premier contingent, 73% des abstentionnistes.
Marine Le Pen qui a donc dès hier soir appelé à la mobilisation de son camp pour le second tour. La chef de file de l'extrême droite dit espérer un sursaut pour effacer les mauvais résultats de tous ses candidats, y compris en région PACA, où le Rassemblement national ne dispose que de quelques points d'avance sur la liste conduite par le président sortant LR Renaud Muselier, lequel espère pouvoir compter sur un front républicain qui lui refuse pour l'instant son challenger écologiste. Jean-Laurent Felizia a en effet décidé de se maintenir au second tour contre l'avis des instances nationales du PS et d'Europe Écologie Les Verts. Le Rassemblement National qui arrive en deuxième position en Ile-de-France, derrière Valérie Pécresse, loin devant, le RN talonné par les écologistes avec à leur tête Julien Bayou qui dès hier soir a promis une liste d'union de la gauche avec l'espoir de créer la surprise dimanche prochain en gagnant la région Île-de-France. Laurence Perron.
Nous sommes tournés vers l'échéance de dimanche prochain. Le scrutin d'aujourd'hui le montre, l'écologie est centrale. Elle a vocation à rassembler autour d'un projet fort et enthousiasmant pour notre région. Agir pour le climat nous permettra d'agir pour l'emploi, pour la santé et pour l'avenir de nos enfants et permettra d'améliorer la vie de chacune et chacun d'entre vous dans cette région d'Île-de-France. Comme nous l'avions annoncé, nous entamerons dès ce soir les discussions pour former avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar le grand rassemblement des écologistes et de la gauche et des forces qui souhaitent mettre en œuvre la transition écologique et sociale.
Voilà, Julien Bayou au micro de Laurence Perron. Des écologistes qui espèrent également une bascule politique dans les Pays de Loire où la candidate LR est arrivée en tête, mais où une alliance avec la gauche pourrait donc changer la donne dimanche prochain. Des alliances ou pas qui pourront également avoir des conséquences en Bretagne où 5 listes peuvent se maintenir. Celle du socialiste arrivée en tête, suivie de la liste LR, qualifiée également la majorité présidentielle, les écologistes et l'extrême droite. C'est un reportage à Rennes de Rosalie Lafarge.
Les appels du pied n'ont pas tardé hier soir, de la part de la candidate écologiste Claire Desmarres-Poirier d'abord.
C'est pourquoi j'appelle au rassemblement de toutes celles et ceux qui placent l'écologie et les valeurs de gauche au cœur de leurs préoccupations.
Le candidat de la majorité présidentielle, Thierry Burlot, ancien vice-président de Loïc Chesnais-Girard et autre héritier revendiqué de Jean-Yves Le Drian, a lui aussi tendu la main.
Maintenant on attend. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui la ligne politique de ce président sortant, qui a été élu sur une ligne politique claire avec Jean-Yves Le Drian et qui aujourd'hui hésite avec Europe Écologie Les Verts. C'est lui qui est dans l'ambiguïté, c'est pas nous.
L'homme de la soirée, le socialiste Loïc Chesnais-Girard, laisse pour l'instant planer le doute sur une potentielle fusion.
Ça aurait été formidable qu'il vienne dès le début, quand j'avais fait des offres à tout le monde. La responsabilité qui est la mienne est de réaffirmer que la ligne qui est la mienne est largement en tête, ce qui montre bien que les Bretonnes et Bretons ont validé mon projet et ont validé ma manière d'agir en tant que président de région.
Ces jeux d'alliance, Isabelle Le Callennec chez Les Républicains les rejette sur le plateau de France 3.
Aujourd'hui, la question
question ne se pose pas à nous de ces alliances pour des postes et des places, puisque nous, le projet, il est clair, la liste, elle est claire, et notre projet, il est cohérent.
Pas d'alliance en vue non plus pour le Rassemblement national, bien plus bas qu'annoncé en Bretagne, même si pour son candidat, Gilles Pennel, rien n'est encore plié.
On verra qu'au second tour, les choses seront complètement différentes.
Comme au niveau national, le RN en Bretagne veut croire au sursaut de mobilisation de ses électeurs au second tour, dans une région où 64% des inscrits ont hier boudé les urnes.
Encore un mot pour vous rappeler les bons résultats dans les Hauts-de-France de Xavier Bertrand et de Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux candidats de droite, président sortant soutenu par le parti Les Républicains, obtiennent chacun plus de 40% des suffrages, et ce à l'issue donc de ce premier tour. En Allemagne, les conservateurs dévoilent dans quelques heures leur programme pour les prochaines élections adoptées hier soir dans les grandes lignes. Il doit permettre ce programme de tourner la page des années Merkel. La chancelière allemande va prendre sa retraite à l'automne après 16 années à diriger les affaires du pays. Lors du vote aujourd'hui pour les Éthiopiens, les électeurs de ce grand pays d'Afrique de l'Est doivent élire leurs représentants régionaux et leurs députés. C'est un test pour l'actuel Premier ministre qui avait promis un renouveau démocratique lors de son arrivée au pouvoir. Depuis, les choses ont changé et l'homme fort d'Addis Abeba, prix Nobel de la paix en 2019, s'est lancé dans une guerre interne contre les séparatistes du Tigré. Un conflit qui brouille aujourd'hui les cartes politiques du pays. C'est une correspondance sur place de Noé Ocheboda.
La province du Tigré, en guerre depuis 7 mois, ne prendra pas part au scrutin et le Tigré ne fait pas figure d'exception. D'autres circonscriptions resteront silencieuses aujourd'hui, alors que le vote se tient dans une grande partie du pays. C'est environ 20% des électeurs qui ne pourront pas glisser leur bulletin dans l'urne, en grande partie dû à l'insécurité qui prend de l'ampleur dans les périphéries éthiopiennes. C'est dans ce contexte dégradé qu'Abiy Ahmed prend part aux élections, sa première fois en tant que candidat, lui qui avait été choisi par ses pairs en 2018 pour prendre les rênes du pays. S'il jouit encore d'une grande popularité dans certaines provinces, l'ancien prix Nobel de la paix est en délicatesse. En Oromia, la plus grande région éthiopienne dont il est pourtant originaire, après le boycott des partis politiques Oromo, suite à l'emprisonnement de leur leader, le Premier ministre n'aura pas de concurrent dans cette province de 40 millions d'habitants. À la recherche d'un premier mandat électif, Abiy Ahmed veut surtout asseoir sa légitimité, de quoi lui permettre d'aborder en position forte deux dossiers essentiels, la guerre au Tigré d'une part et la bataille diplomatique face aux États-Unis d'autre part.
Des nuages, des averses et des orages sur l'ouest, le centre et le nord-est du pays. Il fera beau tout de même sur le sud. Les températures iront cet après-midi de 14 à 32 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
Bonne fête de la musique et bon vent. Rendez-vous demain, 7h, Olivier Denré. Bonne journée.
À demain, bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.